Ce matin encore, nous plongeons en territoire liquide à la recherche des usages de la mer et de leur histoire. Une question, ce matin, que signifiait peupler les rivages à l'époque moderne ? Après avoir évoqué lundi la piraterie, hier dans le documentaire de Carole Peisser et Renaud Dalmar, que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture, les épaves, et les épaves historiques en particulier, nous poursuivons notre série consacrée aux usages de la mer en nous intéressant aux populations qui l'abordent, aux peuples des rivages. Nous nous demandons ce matin ce que des habitants des grèves, urbains ou ruraux, font de leur temps, comment ils regardent la mer et en tirent ou non profit. Nous le ferons en compagnie d'Anaïs Quin, qui a préparé cette semaine avec nous. Avec Emmanuelle Charpentier, elle est maître de conférences en histoire moderne au Framespa, à l'université Toulouse de Jean Jaurès, et elle est auteure, c'était il y a 2 ans, d'une version donc éditoriale de sa thèse, Le peuple du rivage, le littoral nord de la Bretagne au XVIIIe siècle, aux presses universitaires de Rennes. Et nous serons avec Alain Cabantous, professeur émérite à Paris 1, grand spécialiste de toutes ces questions, auteur entre autres des côtes barbares, pilleurs d'épaves et sociétés littorales, des citoyens du large, les identités maritimes en France, et qui a co-dirigé également Les Français, la Terre et la Mer chez Fayard, et très récemment avec Gilbert Buty, c'est cette année, Être marin en Europe occidentale 1550-1850 aux presses universitaires de Rennes.
Quand on est devant la mer, on est comme devant l'horizon, on attend ce qui vient. Ce qui vient, c'est au loin une voile. Ce qui vient, c'est le débarquement. Et les bunkers sont des figures de l'attente. Et la plupart des bunkers que j'ai découverts dans un premier temps n'ont servi à rien, puisque le débarquement a eu lieu en Normandie et que les bunkers que je repérais se trouvaient dans les environs de Saint-Nazaire, de Douarnenez, etc. Et donc c'était des figures de l'attente. Figures de l'attente qui ont été reprises par tous les grands écrivains. Je pense à Julien Gracq dans Un balcon en forêt. Je pense à Buzzati pour le désert des Tartares. Et donc l'architecture militaire, pour moi, a une dimension religieuse. Elle attend la fin du monde, elle attend l'apocalypse. Et elle se confond avec la dimension mythique de l'architecture religieuse. Donc pour moi, c'était des objets emblématiques d'une angoisse que j'avais ressentie dans ma jeunesse, qui m'avait terrorisé. Et donc j'allais à la rencontre de ces objets que je ne connaissais pas et qui me permettaient d'une certaine façon de conjurer cette angoisse que j'avais eue pendant 4 ans.
Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour.
Quel est cet archive qu'on vient d'entendre pour ouvrir notre semaine et notre émission d'aujourd'hui consacrée donc à ces peuples des rivages ?
C'est un extrait d'une émission tirée d'une série d'émissions qui existait jadis sur France Culture qu'on intitulait Les lieux de mémoire de Jourdain.
Très grande série d'émissions.
Et on vient d'entendre Eric Roth, donc qui a beaucoup travaillé sur les bunkers, sur leur histoire et sur leur imaginaire. On entend bien à quel point c'est évocateur pour lui, de façon très inquiétante, mais aussi de façon très très rassurante.
Oui, donc ces bunkers qui sont des figures de l'attente, dit bonjour Emmanuel Charpentier.
Bonjour.
Dit Eric Roth, bonjour Alain Cabantous.
Bonjour.
Et quand on travaille sur cette question comme vous depuis si longtemps, Alain Cabantous, cette figure de l'attente, c'est une figure que l'on a toujours auprès de soi, d'une certaine façon, quand on travaille sur le rivage et la mer, puisque évidemment, cette question de qu'est-ce qui va venir de la mer est une question essentielle.
Oui, c'est une question essentielle, mais que les historiens n'ont pas saisi pendant très longtemps. Et je crois qu'en France, par exemple, un des premiers, c'est Vidal, qui est professeur à l'Université de La Rochelle, qui a commencé à travailler très sérieusement là-dessus, à partir effectivement d'un travail qu'il avait initié sur ces populations portugaises qui sont exilés et qui attendent de partir vers le Brésil pendant des années. Et donc, effectivement, pendant très longtemps, quand on travaille sur les populations maritimes, l'attente, c'était lié à la figure de la femme, comme si la femme attendait en permanence le retour du mari. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passait. Mais ce qui est très intéressant dans l'extrait que vous avez proposé ici, c'est que le bunker devient un lieu et une figure de l'attente. Et le rapport avec le désert des Tartares est quand même extrêmement intéressant.
Mais c'est une image très très romantique et très très sombre finalement de ce qu'on peut attendre de cette situation en front de mer de la part d'Eric Roth. Et c'est au contraire cette situation de l'aléa permanent, cette histoire des peuples du rivage, pour reprendre votre titre, Emmanuel Charpentier, c'est l'histoire de la maîtrise de cette situation d'aléa, Alain Cabon, tout ce que à laquelle vous vous affrontez tous les deux dans ces recherches sur ces habitants de ces lieux très spécifiques, directement en contact avec la mer.
Oui. Alors ce qui est aussi intéressant par rapport à cela, c'est le rapport au temps. En réalité, dans ces populations-là, l'analyse des temporalités, du temps, est un élément tout à fait spécifique de ces populations. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours en attente, mais que l'attente participe complètement des rythmes à la fois journaliers, mensuels, voire même annuels, puisqu'effectivement, on ne sait pas ce qui vient de la mer, on ne sait pas ce qui va partir de la mer. Et c'est un élément essentiel.
Oui. Et puis, il y a une grande difficulté dans cet aléa qui vient d'être énoncé par Anaïs Quin, c'est qu'on ne peut pas, quand on est historien, généraliser d'une certaine façon. C'est-à-dire que tous vos livres, et on viendra avec Emmanuel Charpentier sur le rivage nord de la Bretagne, tous vos livres aux uns et aux autres sont des livres qui nous disent « attention ». Vivre sur un rivage, ça n'est pas la même chose si l'on est dans un estran, ça n'est pas la même chose si on vit sur une falaise, ça n'est pas la même chose si on est sur la Méditerranée ou sur l'Atlantique, ça n'est pas la même chose si on est près de rochers ou si on est près d'une plage. Enfin, en gros, il faut distinguer, catégoriser et à l'infini d'une certaine façon, Alain Cabantous.
Absolument. Alors, on a là, tous les ingrédients de la recherche et de la culture historique, c'est-à-dire qu'on a à la fois les temporalités dont on parlait tout à l'heure, on a les espaces ou les territoires ou les lieux, ça dépend des moments, et puis on a aussi les populations, parce que les populations du rivage, enfin bon, Emmanuel Charpentier le sait largement aussi bien que moi, sont pas simplement les marins, autrement dit les marins sont même en minorité sur les populations du rivage, contrairement à ce qu'on pense. Par conséquent, il y a là pour rejoindre ce que Emmanuel Laurentin disait à l'instant, il y a aussi le rapport entre ville et village. Mm-hmm. Enfin, autrement dit, c'est cet ensemble d'éléments qu'il faut absolument lier, comparer, opposer, distinguer pour essayer d'obtenir un début de réponse.
Emmanuel Charpentier.
Oui, ces populations de marins sont littéralement diluées parmi les villageois. Hein. Sur les côtes nord de la Bretagne, les marins représentent moins d'un dixième de la population. Donc ils sont très peu nombreux. Et
tout type de marins, en l'occurrence.
Oui, tout type de marins.
Confondu,
oui.
Marins de commerce ou marins pêcheurs.
Et puis en plus, alors, ce qui brouille encore plus les cartes, c'est la pluriactivité généralisée sur le littoral, puisque ces marins, notamment dans le bassin de recrutement de Saint-Malo, hein, pour la grande pêche à Terre-Neuve. Ces marins, ce sont aussi des terriens, ce sont des paysans, hein, qui cultivent des terres. Donc c'est extrêmement compliqué de...
Parce qu'on n'est pas marin toute l'année.
Non, on n'est pas marin toute l'année et on n'est pas marin non plus toute sa vie. C'est ça qui est complexe à saisir. Hein. La carrière maritime s'arrête souvent tôt. Alain Cabantous le sait aussi bien que moi. Et puis elle peut s'arrêter de façon très prématurée. Hein. Les accidents sont quand même extrêmement courants sur les navires. On trouve des hors de service, comme c'est l'expression utilisée à l'époque, dès l'âge de 20 ans, parce qu'ils sont tombés en grimpant pour changer des voiles. Ils se fracassent la tête, les cuisses. Ils sont incapables de continuer une carrière maritime. Donc la carrière maritime, elle s'envisage à moyen terme, avec toujours, pour les villageois, l'idée d'un retour à la terre. Donc d'où des stratégies qui permettent d'accumuler parfois des petits pécules. Ces pécules sont une voie d'accès au marché foncier, auquel ils n'auraient pas accès s'ils n'avaient pas embrassé la carrière maritime.
Anaïs.
Si l'on vous écoute bien, Emmanuel Charpentier, finalement, une carrière maritime, en tout cas accéder directement à la mer, travailler la mer, que ce soit militairement, commercialement, c'est une exception pour ces peuples qui habitent sur les rivages. On s'interroge du coup sur le statut de ces hommes, la plupart du temps sont des hommes, exclusivement des hommes, qui sont les seuls et pourtant minoritaires à s'affronter à cette eau, à cette mer, à cet océan, à un moment où vous travaillez tous les deux sur l'époque moderne, à un moment où on ne sait pas nager, où la notion de plage n'est pas du tout la même que celle qu'on a aujourd'hui, c'est pas du tout un lieu de récréation, de vacances.
Oui, alors justement, ce qui est vraiment très important quand on travaille sur l'époque moderne, c'est d'éviter toute forme de déterminisme. Ce n'est pas parce qu'on vit au bord de la mer à l'époque moderne que l'on est nécessairement attiré par l'horizon maritime. Ça, c'est extrêmement important. Je crois, Alain Cabantous l'a très bien montré pour le Pays de Caux. Hein, effectivement, on a une falaise.
Avec des villages qui tournent le dos à la mer.
Voilà,
exactement. Ce sont des faux villages de bord de mer.
Tout à fait.
Oui, oui. Et donc, finalement, je ne crois pas qu'on puisse vraiment parler d'appel du large, notamment pour la Bretagne, parce que c'est quand même un argument touristique aujourd'hui, hein, pour la Bretagne.
Un fantasme touristique.
Oui, tout à fait. Nous, on prend le large, surtout quand on veut devenir matelot, hein, c'est vraiment la masse des navigants, faute de perspective à terre le plus souvent. C'est une opportunité qui est saisie à un moment donné, donc, et qui permet d'espérer... peut-être une meilleure vie que ce que l'on pourra avoir sur Terre. Donc du coup, on retrouve... Alors après, on a différentes configurations, mais je pense par exemple à des jeunes gens qui viennent des campagnes. J'avais un cas, par exemple, un Normand qui a... Sa mère est arrivée à Saint-Malo suite au grand hiver de 1709 à cause de la cherté des blés. Voilà, ils sont attirés par les places portuaires. Ils essaient... trouver un embarquement parce qu'ils se disent au moins ce sera un travail avec un salaire et puis en fait ils se retrouvent à traîner sur les quais, à vivre avec ce qu'ils peuvent chaparder.
Et puis une autre difficulté pour l'historien ou l'historienne, en l'occurrence Alain Cabantous, c'est de savoir ce qu'ils ont dans la tête, ces gens qui peuplent les rivages. Ça n'est pas si simple, la plupart d'entre eux sont analphabètes, n'ont pas laissé de mémoire, d'écrit. Alors on peut travailler, comme vous l'avez fait, avec des sources qui sont des sources judiciaires, qui sont des sources policières, qui sont les cahiers de doléances, par exemple, qui nous disent quelque chose au moment de la Révolution française, de l'intérêt et de ce que veulent les gens qui, justement, peuplent ces rivages. Mais ça n'est pas si simple de savoir quel est l'univers mental dans lequel ils se meuvent d'une certaine façon à l'époque moderne, à la veille de la Révolution française, Alain Cabantous.
Non seulement ce n'est pas si simple, mais c'est extrêmement compliqué. Alors, effectivement, on arrive à les saisir uniquement par des éléments indirects, et y compris d'ailleurs les cahiers de doléances sont des éléments indirects, hein, puisque en général, ce sont des gens qui tiennent la plume. Hein, ce sont pas eux. Par contre, ce qui est intéressant, ce sont les archives judiciaires que vous avez aussi utilisées, et notamment en s'agissant des pillages, ça c'est intéressant, parce que on voit quand même comment ils se situent par rapport à la fois à l'espace et par rapport aux autorités. Et en réalité, en Bretagne par exemple, les populations font semblant de ne pas comprendre le français. Parfois, elles comprennent le français, elles demandent absolument un truchement, c'est-à-dire un traducteur, et... Des fois, les gens se dévoient eux-mêmes en répondant en français alors qu'on leur a posé la question en breton. Donc ça veut dire quand même que des fois, ils comprennent ce qu'on leur demande. Mais c'est une manière d'échapper à la loi.
Une archive que vous avez sélectionnée dans le fond inépuisable de l'INA, en l'occurrence Anaïs Quint, pour pouvoir...
Oui, un certain Jean Barre qui raconte à la fois son expérience, mais surtout l'expérience de ses ancêtres qui viennent du Léon, une région que vous connaissez bien. Tous les deux, et qui parle notamment de ceux qu'on appelait les naufrageurs.
Je suis du Léon, du Nord Finistère, c'est-à-dire la région assez âpre, du pays des abeilles. C'est aussi le pays pagan, le pays des pilleurs d'épaves.
Ça n'existe plus, bien sûr.
Non, mais il y a encore de vieux pêcheurs qui, le matin, vont faire un petit tour le long des grèves pour ramasser tout ce qu'ils trouvent, la moindre planche. La tradition ne s'est pas complètement perdue. Alors il faut, en ce qui concerne les naufrageurs, s'entendre. Je crois que les légendes qui consistent à dire qu'on a mis des lumières sur les cornes des vaches, vous savez, pour imiter le balancement d'un bateau, de façon à ce que les bateaux viennent
se jeter sur les racines,
ça, je crois que c'est de la légende. Maintenant, que le bateau, lorsqu'il vient à la côte, appartienne aux gens, ça, c'est encore dans leurs mœurs. C'est une vieille tradition. Il y avait la tradition que tout ce qui venait de la mer appartenait aux gens. Ce qui est sûr, c'est qu'il a existé une loi de la mer qui s'appelait le Lagan, et où il était dit que le bateau qui touchait et qui faisait naufrage appartenait aux gens de la côte. Et même les hommes que l'on sauvait étaient considérés comme les esclaves des gens qui les sauvaient. Par exemple, je vous raconterai qu'en 1929 encore, un bateau anglais s'est échoué un jour de tempête sur la côte de Plouguerneau, à Saint-Michel exactement, et que les gens ont littéralement pris d'assaut le bateau, enlevé tout ce qu'il y avait à bord, les fauteuils, les meubles qui s'y trouvaient, et que ça a donné lieu à un procès au tribunal correctionnel, et où les gens trouvaient parfaitement normal et légitime, c'était à nous. Pendant la guerre, il y a eu énormément de naufrages, des torpillages. Ils venaient à la côte des caisses d'orange, du caoutchouc, des barriques de Porto. Oui. Nos braves gens de la côte se saisissaient de tout ça, au nez à la barbe des douaniers, les enterraient dans leurs airs, et j'ai goûté moi-même à du très vieux Porto excellent, une dizaine d'années après, qui était encore des prises, du pinzé, comme on dit en Bretagne.
La mer n'est pas la mer, c'est un gouffre sans fond. Qui avale les garçons par les matins trop clairs.
Un extrait donc de Des hommes et la mer, produit par Roger Pilaudin sur notre bonne chaîne France Culture en 1969, et cet entretien avec un personnage qui dit qu'il a des souvenirs de la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Jean Bars ou Jean Bar, je ne sais. Les naufrageurs, ceux sur quoi vous avez travaillé, en l'occurrence Alain Cabatous, entre légendes de naufrageurs et réalité de ce qu'étaient ces pillages d'épaves arrivant sur le bord de mer. On est un animal aussi, quand on est historien, à déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux de la légende, de la tradition orale et de la vérité de tout cela.
Alors ce qui est vrai, c'est que, on vient de l'entendre, là, être naufrageur, ça participe d'une identité en définitive. Et notamment sur la côte nord de la Bretagne, ce qu'on appelait le pays pagan, donc le pays des païens, en fait, c'est un pays qui tient absolument à avoir eu, jadis, des naufrageurs, c'est-à-dire des gens qui étaient à la fois autonomes, indépendants, complètement, je dirais, en dehors de la société, manifestant ainsi une très très forte identité spécifique.
Et qui vivent typiquement de l'aléa de ce que peut apporter la mer, pour le coup.
Oui, mais
on ne peut pas attendre une épave, on ne sait jamais à quel moment elle arrive.
Oui, mais en même temps, pour avoir travaillé quand même dans les archives, je n'ai jamais trouvé une seule allusion de la part des naufragés, et non pas des naufrageurs, de gens qui étaient trompés par des feux. Hein, et pour des raisons qui sont effectivement assez logiques, assez évidentes, pour faire des feux, il faut d'abord du bois. Et ce sont des régions qui n'ont pas de bois, pour commencer. Et ensuite, même s'il y avait eu des feux, la luminosité est telle que lorsque le bateau arrive et drossit à la côte, lorsqu'il voit les feux, c'est déjà trop tard, en définitive. Donc, à mon sens, et en dépit de ce que les gens du Lyon peuvent penser, alors il y a peut-être eu des naufrageurs il y a très 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 longtemps, quelquefois, j'en sais rien, mais en tous les cas, pour l'époque moderne...
Il y a des légendes comme ça.
Oui, mais c'est
je
important.
Je ne sais plus où je l'ai lu, où on mettait des lumières sur les cornes des vaches.
Bah, évidemment, et puis les vaches n'avaient pas chaud.
Hein. Emmanuel Charpentier, justement, sur cette question-là, effectivement, de la façon dont on se raconte quand on est en bord de mer, et dont on se distingue des voisins aussi. Est-on des populations de la terre, de la mer? Comment considère-t-on ceux qui sont de la mer quand on est soi-même de la terre, alors qu'on habite à quelques kilomètres de là, etc. Ce sont des questions que vous avez abordées dans votre travail de thèse, Emmanuel Charpentier.
Oui, mais en fait, ceux qui fréquentent la mer, quoi, c'est l'expression de François Le Maçon du Parc, ce sont des terriens.
Donc, 1731, c'est ça?
En 1726 et 1731, voilà. Pour ces deux tournées d'inspection. Et donc, ce sont des terriens avant tout. Donc, surtout quand ils habitent la paroisse. Après, pour des marins qui sont en escale, c'est vrai que ces marins peuvent susciter de la méfiance, et encore, pas toujours. Ils peuvent être accueillis au cabaret à partir du moment où ils se conforment aux usages qu'ils acceptent éventuellement ce qu'il leur est offert à boire. Ça peut passer relativement bien. Donc les situations sont très différentes. Et puis il faut se méfier aussi, parce que nous, On connaît ces gens de mer aussi à travers le prisme des archives judiciaires qui nous donnent une vision assez biaisée, une vision parfois négative des relations sociales. Hein. C'est tout le problème des archives judiciaires.
Mmh. Anaïs Kien.
Il y a quand même une question que pose cette archive, au-delà du folklore, de la légende, des légendes qu'on aime se raconter, c'est la question de l'autorité. Qui a autorité sur la mer? Qui a le droit d'exploiter les ressources de la mer? Et au XVIIIe siècle, cette époque que vous avez explorée, Emmanuel Charpentier, il y a de grands débats entre les souverains locaux, l'autorité royale, et également les habitants qui réclament de pouvoir bénéficier effectivement de ce qu'apporte la mer quand elle n'apporte pas que des cadavres et de tristes nouvelles.
Oui, effectivement, la question est complexe, hein, puisque les populations littorales ont l'habitude d'aller à la côte. Mmh. Alors, pour ramasser tout ce que la mer apporte, hein, sont vraiment les laisses de mer, et il est absolument inconcevable à l'époque de laisser quoi que ce soit sur le rivage. Hein, on récupère tout, c'est une société de la récupération.
Il y a même une avidité.
Oui, complètement. Hein, dès qu'un naufrage a lieu, alors certes, on n'a pas de naufrageurs, mais dès qu'un naufrage a lieu, c'est vrai que c'est très compliqué d'empêcher ces populations d'aller sur les strands pour ramasser, mais même des grains de blé gonflés d'eau de mer qui sont inconsommables, on les récupère un grain par grain, on les fait sécher sur la place du village, ils sont revendus. Voilà, c'est inconcevable en plus de laisser de la nourriture se perdre sur les strands, mais même du bois, n'importe quoi. Donc là, la question qui se pose au moment de la création des amirautés, qui sont des juridictions d'exception, c'est l'affirmation du pouvoir royal sur les strands, sachant qu'en plus les seigneurs riverains de la mer, pour certains, revendiquent la possession du droit de bris. Donc là, ce qui finalement provoque énormément de débats au XVIIIe siècle, c'est l'affirmation du pouvoir royal sur le littoral.
Alain Camantous.
Oui. Alors, ce qui se passe effectivement, c'est qu'on a une réduction progressive du pouvoir des seigneurs. Progressivement, ils n'ont plus mainmise sur la côte. C'est le pouvoir royal, tout à fait, qui impose sa législation et qui l'impose de différentes manières, dans la mesure où même il légifère sur les engins de pêche qui peuvent être utilisés sur les bords. Ce qui est intéressant, c'est que les populations, tout en intégrant ou pas cette dimension, sont quand même des populations qui sont des populations rivales face à un pillage. C'est-à-dire que peu importe en réalité l'autorité royale, lorsqu'un bateau s'échoue, eh bien on a une communauté qui se précipite sur les parts, mais on a les communautés voisines qui se précipitent aussi. Et c'est à ce moment-là un débat sur la limite de la paroisse. Mmh. Autrement dit, une épave nous appartient. En réalité, bon, ça appartient au roi, effectivement, le droit de bris. Le roi défend le droit de bris, protège en réalité l'épave.
Mais y arrive-t-il véritablement?
Pardon?
Y arrive-t-il véritablement ce roi, justement, à affirmer son pouvoir et
alors,
à récupérer ses débris?
Oui, théoriquement, par les officiers d'amirauté. Puisque il y a une soixantaine d'amirautés en France, d'organisations administratives, mais en réalité, lorsque les officiers d'amirauté arrivent sur le lieu, ils arrivent en général 2 ou 3 jours après, de façon à augmenter d'ailleurs leurs frais de déplacement aussi. Et lorsqu'ils arrivent, évidemment, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
Évidemment.
Sur ce point, Emmanuel Charpentier.
Oui, alors effectivement, c'est quand même extrêmement compliqué de faire respecter le droit du roi sur les épaves. Donc oui, les officiers d'amirauté arrivent tardivement. Ils payent parfois des gardiens pour essayer de protéger les épaves. Mais bon, ces gardiens sont parfois attaqués en pleine nuit par des pilleurs. Hein, ça, c'est une réalité quand même.
Et on ne va pas faire des perquisitions chez les gens pour voir
si
le fauteuil
est
bien
sûr. Bien sûr, mais les gens font les innocents, ne connaissaient pas la législation.
Les gens sont étonnés d'avoir des objets chez eux.
Oui, c'est bizarre.
On cache leur butin.
Oui, je ne comprends pas. Voilà.
Oui. Et ce qui est quand même assez intéressant dans les rapports de Le Maçon du Parc, c'est qu'il fait état justement de ses pratiques. Par exemple, quand il passe dans le Léon, dans ce fameux pays pagan, les représentants des autorités locales refusent de lui parler dès qu'il énonce l'objet de sa mission.
Alain Camardous, un dernier mot sur ce
point. Oui, les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Je me souviens quand je travaillais sur les côtes barbares, il y a eu un bateau qui s'est échoué à Ouessant. enfin près de Ouessant. C'est un bateau qui était rempli de chaussures de sport, de vêtements de sport. Il n'y a pas de gendarmerie à Ouessant maintenant, il n'y en a plus. Les gendarmes sont arrivés d'Audierne, je crois, 3 jours après. Mais une fois que les gens d'Ouessant avaient échangé leur paire de chaussures, parce qu'en définitive, lorsqu'ils récupéraient les chaussures, ils récupéraient 2 pieds gauches 42 ou 1 pied droit 43 et 1 pied gauche 41. Et donc, ils ont fait une espèce de foire à l'échange. Et les gendarmes sont arrivés, comme la marée chaussée en Italie, 3 jours après, en constatant les choses, c'est tout.
Autre extrait de cet archive de 1969, tiré de l'émission Des Hommes et la Mer, produit par Roger Pilaudin, avec ce fameux Jean Barthes. Donc, il évoque un autre métier, en l'occurrence, le métier de goémonier.
La mer est nourricière, ce pays est pauvre, tout ce qui vient de la mer est un cadeau de Dieu. C'était un pays pauvre. Il est certain que la mendicité, avant la guerre de 14-18, était encore très répandue. Lorsque dans une ferme, on avait un peu de blé, on donnait du pain tous les vendredis, par exemple. Chez mes grands-parents, c'était le vendredi. Les Klaskerbara, les chercheurs de pain, comme on les appelait, venaient tel jour dans telle ferme où on leur donnait du pain et un sou. C'est une forme de solidarité, oui. Des gens qui avaient quelques biens vis-à-vis de ceux qui n'avaient rien, parce que ces gens-là n'avaient pas de terre, n'avaient rien comme subsistance.
Et comment vous savez toutes ces choses-là? Parce que vous êtes quand même encore jeune, monsieur Barthes.
Vous savez que j'ai quand même des souvenirs qui datent de la guerre de 14-18. Je suis né en 1912, et j'ai plongé par conséquent, par mes souvenirs, et surtout par les souvenirs de ma mère et de ma grand-mère, dans une société que je considère encore comme une société archaïque, comme celle du Moyen-Âge. La société traditionnelle bretonne avait si peu bougé que je puis dire que j'ai connu le Moyen-Âge.
Qui chaîne et cœur ville, inogue et trala, trala dira. Qui chaîne et cœur ville, zo a chômeur fumelle. Anope suiket. Son jogue tra-la, tra-la dira, an opus wicket, son boi an deisenere.
Les gens de mon pays étaient paysans, ils avaient un peu de terre, mais aussi et surtout goémoniers. On ramassait le goémon, soit sur la côte avec des charrettes, c'est le goémon que l'on coupe, le fucus que l'on coupe sur les roches, soit alors en barque, ce qu'on appelle le tali, les laminaires, dont on se servait pour faire ce qu'on appelait la soude, d'où l'on extrayait l'iode. Et pendant très longtemps, ça a été l'une des ressources importantes du pays. C'est à peu près disparu maintenant. C'était beaucoup plus des goémoniers que des pêcheurs. On brûlait le goémon, on en faisait des pains de soude, et on les remettait ensuite aux usines qui en extrayaient l'iode. Il y avait des usines dans toute la région, il y en avait à Plouyerneau, il y en avait à la Bervrac, il y en avait dans plusieurs régions. C'était la grande ressource du pays. Et à un moment donné, en 1930 par exemple, c'était une ressource importante. Les gens gagnaient bien leur vie, ils gagnaient de 30 à 40 000 francs par an à cette époque, ce qui était une somme appréciable. Un professeur gagnait 36 000 francs par an.
Algues brunes ou rouges, dessous la vague bouge, les goémons. Mes amours leur ressemblent, il n'en reste, il me semble, que goémons. Que des fleurs arrachées, se mouvant comme les noirs goémons. Que l'on prend.
Voilà, extrait des Hommes et la Mer, aux productions de Roger Pilaudin sur France Culture en 1969. Alors là, il y a un témoignage, et ce témoignage, d'une certaine façon, Alain Carventous nie le travail de l'historien, parce qu'il dit en gros, moi ce que j'ai connu dans les années 20, c'était le Moyen-Âge. Or, ce que vous montrez tous les deux dans vos travaux, c'est qu'effectivement, il y a des évolutions de ces paysages de rivages de mer, des évolutions des attitudes, des évolutions des personnages, qu'évidemment, ça n'est pas la même chose qu'être sur la côte nord de la Bretagne au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, et dans les années 1880, par exemple.
Oui, mais en réalité, Vous avez parfaitement raison, mais cette expression reflète bien, illustre bien ce qu'on essaye toujours de fixer autour des populations littorales, maritimes et de la mer. Autrement dit, une espèce d'immobilisme.
Société immobile.
Voilà, c'est une société qui ne bouge pas.
Manière de défendre les coutumes, d'ailleurs. C'est-à-dire un droit informel.
Bien sûr, mais
une manière d'être propriétaire du lieu.
Les coutumes ont, comme chaque chose, une origine, une évolution et parfois une fin. Autrement dit, on est là dans une imagerie qui est permanente et qui est d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui. Hein. Par exemple, encore aujourd'hui, le monde de la pêche, qui est pourtant en diminution en France d'une manière drastique, c'est le monde de l'authentique, c'est le monde du vrai, c'est le monde à l'ancienne. Hein, à l'ancienne, voilà. Autrement dit, on est toujours dans cette image. Et effectivement, on ne peut pas dire que la vie des populations maritimes ou des populations littorales, disons à la fin du XVe siècle, qu'on connaît d'ailleurs très très mal, hein, entre parenthèses, soit tout à fait la même que celle des années 1880.
Ce qu'on entendait bien aussi dans cette archive, Emmanuel Charpentier, c'est à quel point finalement on exploite tout. Donc là, il était question du goémon et de comment cette exploitation qui va devenir quasiment industrielle prend de l'ampleur à mesure qu'on la maîtrise. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, Le peuple du rivage, dont on s'est inspiré pour titrer cette émission d'ailleurs, c'est de voir aussi qu'il y a un souci de la surexploitation qui arrive très tôt. Dès le XVIIIe siècle, on essaye de réglementer notamment les techniques de pêche, qui a le droit de se servir dans tel ou tel stock naturel ou non, parce qu'il n'y a pas que des épaves qui fréquentent les bords de mer, mais aussi tout simplement des ressources naturelles. Et ce souci arrive très tôt.
Oui, effectivement. Alors là, on retrouve justement l'émergence du pouvoir royal sur les littorales qui, à travers l'ordonnance de la marine de 1681, elle est adoptée en 1685 en Bretagne, tente de légiférer, alors non seulement sur le droit de bris à travers donc la création des amirautés, mais aussi sur les techniques de pêche de manière à préserver la ressource halieutique. Cette même législation concerne également la récolte du goémon, pour revenir à l'archive sonore que vous avez passé. Alors, non pas pour préserver le goémon en lui-même, mais c'est parce que à l'époque, on considère que le goémon favorise le renouvellement des poissons, tout simplement. Donc, en découle toute une législation sur le goémon. Alors, le goémon vif, c'est celui qui pousse sur les roches, qui est vraiment réservé aux paroisses. À la paroisse dans laquelle il croit. Alors, là, on a la même avidité que pour les laisses de mer, avec des batteries sur les rivages, puisqu'évidemment, certaines paroisses sont moins dotées. Donc, on va un petit peu en chercher chez le voisin. Et ça peut être extrêmement violent avec des goémoniers qui arrivent en barque, qui camouflent un fusil dedans, en cas de batterie sur le rivage. Donc là, c'est fréquent. Ça peut donner lieu à des procès qui durent des dizaines et des dizaines d'années, qui engagent les trésoriers de la paroisse, ils s'endettent exprès. C'est extrêmement compliqué. On a en plus vraiment des paroisses procédurières, comme Bas, par exemple, qui en procès avec toutes les paroisses voisines.
Mais ça nous montre aussi à quel point c'est vital pour ces paroisses.
Oui, c'est vital, effectivement. Alors là, le goémon, en fait, en Bretagne, ne sert pas encore vraiment à fabriquer donc de la chaux. On a des tentatives à la fin du 17e, au 18e, mais là, c'est vraiment en Normandie. Le goémon, sur les côtes nord de la Bretagne, c'est un amendement essentiel pour les terres. Et il permet de réchauffer, entre guillemets, les terres du littoral, tout simplement, et de produire du froment, par exemple.
Oui, parce qu'il faut tout de même s'apercevoir et se souvenir, en vous lisant Alain Quimbantous et Emmanuel Charpentier, que cette économie du littoral est une économie, dites-vous, médiocre. Et c'est ce que disent d'ailleurs dans le cahier de doléances de Lanriec dans la Sénéchaussée de Quimper, les gens qui sont là, ils écrivent, ils disent « Nous habitons un élément terrible, nous ne vivons que parmi les écueils et les tempêtes, les périls et les dangers nous présentent partout l'image de la mort, je passe, et nous ne trouvons dans nos demeures que le mépris de l'indigence, une femme flétrie par la misère, des enfants sous les haillons, et rongés de besoins, le produit de nos campagnes est consommé à payer le pain amer que notre famille a mangé dans la détresse, pendant notre absence. Ah, est-ce là la récompense que méritent les fidèles marins? En l'occurrence, ce sont des marins. Je pense pas que ce soit eux qui aient écrit ce texte.
Pas vraiment.
Ce texte-là qui ressemble beaucoup plus à un article de l'encyclopédie, mais néanmoins, il y a ou à une diatribe de Voltaire, mais enfin, il y a néanmoins effectivement cette idée que l'économie est une économie médiocre, pauvre.
C'est une économie de la précarité. Mais une fois de plus, alors c'est une précarité qui est partagée par d'autres communautés, par des communautés rurales, par des communautés de montagne, etc. Mais en réalité, cette économie de la précarité est d'autant plus accentuée là qu'elle est, elle dépend d'un certain nombre d'aléas. Et tout à l'heure, on rappelait qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de règlements concernant la protection de l'espèce, parce que aussi, entre les années 1705, 1710 et 1730, le poisson disparaît, ou disparaît pas, mais devient beaucoup plus rare. Peut-être parce qu'il y a eu des transformations dans les...
Écologiques, pour être
honnête. Voilà, écologiques, bien sûr. Mais en réalité, voilà, on a affaire à des...
À un moment d'alerte.
Oui, tout à fait. Mm. Et donc, du coup, le poisson est important, le goémon est important à certains endroits, mais pas à d'autres. Mm. Mais quand on voit, par exemple, les quelques villages qui existent entre l'estuaire de la Gironde et la frontière espagnole, on se demande comment... Je pense à Soulac, par exemple. On se demande comment ces gens-là pouvaient vivre, même avec les ressources de la mer. Alors, on dit toujours, bien sûr, les gens de mer ou les gens des bords de mer ne mouraient pas de faim. Il n'y a pas eu, par exemple, de famine parce qu'il y avait toujours des possibilités de manger du poisson, mais peut-être, mais fallait-il encore récupérer le poisson.
Emmanuel Charpentier, vous insistez dans votre travail publié donc sous le titre Le peuple du rivage, donc aux presses universitaires de Rennes, sur l'idée qu'effectivement cet espace est aussi un espace de l'entre-deux, c'est ce qu'on dit depuis le départ, et qu'il y a souvent, on a souvent négligé des espaces qui nous apparaissent aujourd'hui, des espaces, presque de loisirs, des estrands, des espaces comme ceci, ou des RIA qui sont des espaces exploités parce qu'il faut exploiter tout l'espace, expliquez-vous. Aujourd'hui, on regarde ça comme des beaux des conservatoires du littoral ou des espèces sauvages qui sont en bord de mer, la plupart du temps ces paysages-là. Et en fait, à l'époque, ils étaient évidemment exploités parce qu'il fallait prendre toutes les possibilités pour pouvoir en vivre, en l'occurrence, Emmanuel Charpentier.
Oui, effectivement, ce qui m'a frappé lors de ces recherches, c'est la capacité d'adaptation des populations littorales qui trouvent des solutions. Par exemple, pour contourner une ria, c'est simple, plutôt que de faire le tour, on met un bateau de passage. Là, ce sont souvent les seigneurs, justement, riverains de la mer, qui en sont à l'origine. Et qui font un peu office de prestataires de services ici.
Et qui font payer ce service.
Et qui font payer ce service, effectivement. Mais là, on a quand même un aspect intéressant de la seigneurie agro-maritime. Donc oui, on a des populations très pragmatiques, finalement, qui exploitent ce territoire de l'entre-deux comme elles le peuvent. Alors là, c'est vraiment pour les populations qui habitent en bord de mer, qui n'hésitent pas à pratiquer la pêche à pied. La pêche à pied, elle s'apprend dès l'enfance. Et effectivement, là, on a un complément alimentaire.
Alain Cabantous.
Oui, ce qui est important aussi, c'est que exploiter tout, c'est aussi permettre aux gens de mer, lorsqu'ils ne peuvent pas aller en mer, de redevenir paysans, par exemple. Ça arrive très souvent dans les régions de vignobles, où on voit que il y a une espèce de... Bon, je pense que là, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, là, ce qu'on appelle la pluriactivité à l'époque, c'est-à-dire faire plusieurs métiers, non pas à la fois, mais successivement, et... alternativement, permet aussi de vivre. Et d'où cette exploitation multiple, à la fois agricole, viticole et aussi halieutique.
Une autre archive sélectionnée dans le fond de l'INA, elle date celle-ci de 1978, Anaïs Quin.
En 1978, absolument. Il s'agit une nouvelle fois d'un goémonier, mais celui-ci qui prend acte et qui décrit l'impact du naufrage de la Mococadis et de la marée noire qui s'ensuit sur sa récolte.
Le printemps est cette année dramatique sur les côtes bretonnes. On le redoutait, mais maintenant on le constate, la marée noire est une catastrophe. Jusqu'ici, on a utilisé les moyens possibles, en l'occurrence, mais qui semblent dérisoires devant l'importance des dégâts. Le plus inquiétant, c'est le mauvais temps qui retarde les véritables opérations de pompage. Des plongeurs de la marine nationale tentent des manœuvres d'approche pour préparer le travail, mais remontent les masques de plongée couverts de pétrole. La nappe progresse lentement vers la rade de Morlaix. Le commandant du pétrolier, un Italien de 36 ans, a été inculpé hier à Brest et ne doit pas quitter la ville. À Port-Salle, Les marins-pêcheurs ont déposé leur rôle. Les pêcheurs sont évidemment les plus angoissés, de même que les ostréiculteurs, les commerçants, mais encore les ramasseurs de goémons, comme celui-ci qu'a rencontré Henri Vincent.
On ne peut pas mesurer, en somme, les dégâts pour les années à venir. Ça, il faudra suivre le développement des plantules ultérieurement. Mais pour cette année, il n'y a pas d'illusion à se faire. Avec un coefficient de 100 qui arrive là-dessus fin de semaine, parce qu'en dehors de 100, il n'y a pas de laminaire. Elle ne pousse pas au-dessous de 100. C'est là sa profondeur. Donc, elle séchera. Et qu'est-ce qui arrivera? Elle sera empoisonnée à la base du rocher sur lequel elle pousse.
Vous avez déjà subi, il y a 11 ans, la marée noire du Torrey Canyon.
Oui, mais enfin, c'était moins grave quand même. Hein, parce que là, il y a eu moins, pour commencer. Et d'autant plus que c'était du brut, il est venu directement à la côte se déposer. Celui-ci, c'est du liquide. J'ai remué samedi tout de suite du sable sur la plage. Il y avait déjà 20 cm de profondeur dans le sable. Donc sur les roches, automatiquement, en 5 minutes, les plantules sont attaquées et empoisonnées.
Oui, on peut ajouter que le goémon est utilisé pour des préparations de laboratoire, notamment en pharmacie.
Extrait donc d'une archive de 1978 après la marée noire de Lamo-Cocadis à la Camantous. Effectivement, l'aléa qu'on mentionnait tout à l'heure, ça peut être aujourd'hui de façon moderne ce naufrage d'un pétrolier.
Oui.
Mais ça peut être à d'autres moments le gel de la mer qui fait qu'on peut plus récolter les huîtres au XVIIIe siècle, et au bout du compte, tout ce sur quoi on compte, son rapport à ce qui peut rapporter quelque chose, eh bien, est disparu en très peu de temps.
Oui, alors ce qui est important aussi, c'est de voir que le danger vient de la mer. Là, aujourd'hui, c'est le danger de la pollution, mais il y avait, aux époques qui nous intéressent, les épidémies. Voilà, il y avait les descentes de pirates, notamment en Méditerranée. Il y avait les descentes anglaises, en particulier au moment
des
guerres.
Les débarquements, finalement.
Ben voilà,
tous ces débarquements.
Oui, et puis il y avait aussi les phénomènes naturels. Enfin, il y a quand même des villages qui ont disparu. Je parlais de Soulac tout à l'heure. Bon, Soulac n'a pas disparu, mais a été complètement ensablé au cours du XVIIIe siècle. On a construit d'ailleurs l'église un petit peu plus loin à cause de ça. Et en même temps, en Normandie, il y a des villages qui ont disparu parce que la falaise s'est écroulée. Autrement dit, le danger vient de la mer. La mer, c'est pas simplement un espace de jeu. Voilà, on est étonné toujours de se rendre compte.
Et d'ailleurs, Alain Cabantous, à l'occasion de cette tragédie, de la catastrophe Xynthia, on était revenu aussi beaucoup sur la façon dont on avait oublié finalement absolument. Les manières de protéger les littoraux.
Oui, absolument. Et la protection des littoraux, évidemment, c'est pas une préoccupation du XVIIe et du XVIIIe siècle, même si on a parlé des espèces tout à l'heure, c'est pas tout à fait ça. C'est simplement au fur et à mesure qu'on va se rendre, à la fin du XVIIIe siècle, on va commencer quand même à travailler sur les problèmes d'ensablement, les problèmes du recul des dunes, enfin voilà. Mais ça, c'est surtout au XIXe qu'on va techniquement faire des choses. Par contre, ce qui est important,
mais
c'est
simplement
que...
par l'emplacement des constructions,
oui,
ne serait-ce que cela.
Oui, 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 absolument. Mais, et puis aussi par la fixation des sables avec les oyas, mais ça, c'est un peu plus tard, mais on y réfléchit déjà.
Emmanuel Charpentier, justement, sur cette façon de vivre avec l'aléa.
Oui, effectivement, hein, pour revenir au sable volage, hein, j'utilise ici l'expression de Masson du Parc, c'est un problème que connaît le Léon aussi au XVIIIe siècle. Et effectivement, les solutions commencent à émerger à la fin du XVIIIe avec la... En fait, on réutilise des usages locaux et de la plantation, donc de ce sont pas des oyas, c'est du gramen sur les sables. Pour essayer de fixer la dune. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation très intéressante. N'oublions pas non plus la menace des inondations. Hein. Les digues existent, notamment au niveau du marais de Dole, hein, près de Saint-Malo. Là, ces digues, elles nécessitent un entretien constant qui fait partie de la corvée, hein, des grands chemins. Hein. Donc c'est extrêmement lourd, hein, pour les habitants du marais de Dole. Et puis les descentes ennemies, hein, en 1758, le pays de Saint-Malo connaît quand même deux descentes. Et là, les archives judiciaires permettent de mesurer l'effet de panique provoqué par ce débarquement des Anglais, notamment à Cancale en juin. On a des descriptions en fait qui sont issues de procès-verbaux des dégâts faits par les Anglais une fois qu'ils sont partis. Et c'est extrêmement intéressant puisqu'on voit les comportements justement des habitants de Cancale face aux Anglais. Ils se cloîtrent chez eux, ils essaient de s'enfuir. On a même un couple de notables qui essaient de grimper la falaise, entre guillemets, donc derrière leur maison, puis ils tombent sur les Anglais tout en haut. Donc c'est, on a vraiment ces comportements-là. On essaie de cacher toutes ces richesses, son argent liquide, les objets liturgiques dans les églises. Là, c'est vraiment passionnant. Et puis on a aussi des procès-verbaux de dégâts dans des métairies, ce qui permet de voir que dès cette époque-là, on a des prémices de la ceinture dorée bretonne dans une métairie, notamment à
côté de Saint-Malo. Qu'est-ce qu'on appelle la ceinture dorée bretonne, excusez-moi.
C'est la ceinture maraîchère, donc le long des côtes bretonnes, et dans cette métairie à côté de Saint-Malo, on trouve quelqu'un qui ne cultive pas de céréales, qui s'est spécialisé dans des cultures de légumes et de fruits, des artichauts, des melons en très très grande quantité. Et les Anglais ont été très heureux de les trouver pour pouvoir se nourrir et nourrir leurs chevaux.
Anna Camantous.
J'ai pas grand-chose à ajouter.
Il y a quand même un thème que vous avez abordé, que vous n'avez fait qu'aborder de loin tout à l'heure, Alain Camartou, c'est la question des épidémies. On a là véritablement à une frontière sanitaire. Les villes portuaires sont des frontières sanitaires et charrient aussi leur mauvaise réputation par ce nid de virus qu'ils sont réellement, puisqu'ils accueillent des populations, des cargaisons qui peuvent être bien souvent porteurs de maladies.
Absolument. Absolument. Alors, évidemment, là, il faut faire une distinction, me semble-t-il, assez importante entre le Ponant et le Levant. Ça ne veut pas dire que dans le Ponant, il n'y a pas eu d'épidémie, en particulier dans les ports militaires. Brest, par exemple, l'arrivée d'escadres à un moment, au moment de la guerre de 7 ans et au moment de la guerre de succession d'Autriche, là, il y a eu des épidémies apportées par des équipages et qui ont décimé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Mais en Méditerranée, c'est pas simplement la marine militaire, c'est aussi la marine de commerce. Et on pense évidemment au grand Saint-Antoine et à la peste de 1720, non seulement à Marseille, mais dans l'ensemble de la Provence, qui a été heureusement jugulée par une espèce d'organisation étatique extrêmement sévère.
Sanitaire. Hein.
Heureusement, parce que sinon, on aurait compté plusieurs centaines de milliers de morts. Là, il y a eu quand même à peu près 100 000 morts, hein, donc dont la moitié de la population de Marseille. Et d'où, depuis, en gros, la fin du... le milieu du 15e siècle, des lazarets, c'est-à-dire, en fait, des lieux d'attente. Là, on parlait d'attente.
Pour faire la quarantaine, d'une certaine façon.
Voilà, c'est ça. Des lieux d'attente, de façon à voir si on ne transportait pas en particulier la fameuse peste noire.
Les îles du Frioul, au large de Marseille par exemple, ou d'autres endroits de ce type. Mais ce rapport justement à cette menace sanitaire, c'est aussi ce qui fait que des marins qui viennent de loin, qui sont des marins de la marine marchande, vous l'avez dit, à la Camantous, ou même qui viennent de la Royale, oui, et qui reviennent de pays lointains, ces marins-là sont aussi ont du mal à se remettre dans la société littorale. On les met dans des quartiers à part, où ils vivent dans des quartiers à part, et dans les villes en particulier, et ils ne sont pas forcément les bienvenus, parce qu'ils ont des mœurs différentes, parce qu'ils ont croisé des regards qui ne sont pas les regards des voisins bretons ou des voisins normands, mais des regards qui sont beaucoup plus lointains, et qui sont presque dangereux aussi pour les mœurs, la façon de vivre, les comportements que l'on peut avoir dans ces sociétés littorales, Alain Camantous.
Oui, vous soulevez une question extrêmement importante, parce qu'effectivement, on se met non seulement des marins parce qu'ils ont une vie qu'on estime être dissolue, mais enfin ça, c'est une question de réalité morale. Mais en même temps, parce que ce sont des gens qui, notamment les marins de commerce, sont au XVIIIe siècle au contact d'autres populations et qui du coup, alors inconsciemment ou non, relativisent les choses. Et Bernardin de Saint-Pierre dit par exemple, il n'est pas particulièrement, attentionné aux populations maritimes, quoique, en disant, voilà, ils se permettent aussi, maintenant qu'ils sont allés très loin, de critiquer le roi, donc de critiquer l'autorité, qui sont ces gens-là? Et effectivement, par rapport à ce que vous disiez, il y a un deuxième élément, c'est leur réintégration à l'intérieur des familles. Et tout à l'heure, on parlait de l'attente au début de l'émission en parlant des femmes qui, soi-disant, attendaient tout le temps. Mais alors, je ne sais pas si c'est vrai parce qu'on a trouvé avec Gilbert thérapeutique un seul exemple, mais à Saint-Malo, il y a le commissaire des classes qui dit, mais les femmes n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils repartent, et elles leur trouvent un embarquement dès qu'ils arrivent. Autrement dit, voilà, ils sont toujours malvenus, même dans leur propre pays.
Anaïs Quin.
Oui, Emmanuel Charpentier, il y a cette figure du marin ivrogne, subversif, mais on a construit également un deuxième personnage, finalement, on est en positif de celui-ci, qui est l'image du pêcheur, au contraire, et vous insistez dans votre livre sur l'image de courage, de liberté, d'obstination, espèce de Sisyphe de la mer, et de sérieux, et de d'homme quasiment saint, finalement, pour la sauvegarde, l'exploitation, et en même temps la virilité maritime que représente ce personnage, qui va totalement à l'encontre, finalement, de ce personnage juvénile du marin qui boit, qui va voir les filles, et qui parle fort dans les tavernes.
Oui, alors effectivement, là on touche aux clichés qui ont été élaborés dans la littérature du 19e siècle. Hein. Je pense à Pierre Loti ou à Victor Hugo. Bon, évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe. Tout d'abord, le terme de marin désigne des catégories extrêmement différentes les unes des autres. On a effectivement les marins en long cours qui partent 3 ans, qui repartent souvent rapidement après. On a les marins qui partent au cabotage aussi. Hein. Vous avez les pêcheurs, mais dans les pêcheurs, on a les Terre-Neuves qui partent 6 mois, on a les pêcheurs roturiers qui partent quelques semaines, on a des pêcheurs côtiers qui partent la journée. Donc c'est extrêmement divers. Alors, juste pour revenir à ces marins qui partent longtemps, justement, ces marins en long cours et leur réinsertion dans la famille. C'est vrai que c'est compliqué, puisque bon, les femmes s'habituent, peut-être les épousent-elles aussi en connaissance de cause, mais ces femmes, elles ont une certaine autonomie aussi lorsque leur mari est absent. Autonomie souvent symbolisée par une procuration lorsqu'il y a des biens à gérer. Et là, je vous renvoie aux travaux d'Yvonne Guichard-Claudy qui a travaillé sur les marins tonniers de Concarneau à l'époque contemporaine. Ces femmes, dans leur témoignage, évoquent cette bonne distance conjugale qu'il faut retrouver. C'est pas toujours simple pour des marins. Là, par exemple, j'ai eu un cas de marin qui était parti depuis 2-3 ans. Il revient. Il est là depuis quelques mois. En fait, sa femme est enceinte de 7 mois. Il s'en aperçoit même pas. Elle se lève pendant la nuit. Elle va accoucher et elle revient. Il s'est aperçu de rien. Donc là, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et puis d'autant que ces femmes souvent cohabitent avec quelqu'un d'autre pour pallier l'irrégularité des revenus maritimes.
Je me souviens d'un documentaire fait pour la Fabrique de l'Histoire par Aurélie Luneau, justement sur ces marins au long cours et des reproches que faisaient les enfants au père qui, lorsqu'il était parti pendant 6 mois, laissait la mère évidemment gouverner le foyer, mais qui, dès qu'il revenait, voulait avoir l'autorité parentale sur cette mère qui avait pourtant été totalement autonome pendant leur absence. C'était extrêmement intéressant. Merci Alain Camontous. On aura intérêt à se procurer très vite Être marin en Europe occidentale, que vous venez de publier avec Gilbert Buty, donc aux presses universitaires de Rennes, excellente presse universitaire de Rennes, qui sont aussi votre éditeur, Emmanuel Charpentier, Le peuple du rivage, le littoral nord de la Bretagne au XVIIIe siècle, avec une préface, il faut le noter, d'Annie Antoine, donc c'est aux presses universitaires de Rennes. Et puis pour d'autres livres d'Alain Camontous, on les trouvera sur le site de France Culture, sur la page de la Fabrique de l'Histoire. Vous pouvez également écouter ou réécouter cette émission et la télécharger pendant l'année qui suit sa diffusion. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Nicolas Delmas était avec nous à la technique et à la réalisation. Véronique Samouinoff. Nous poursuivons et terminons demain cette semaine consacrée aux usages de la mer et aux territoires liquides en nous intéressant à...
Au rapport de la France à ses mers. Pourquoi finalement ne valorise-t-on pas plus la tradition maritime française que dans d'autres pays, je pense notamment aux pays anglo-saxons ?